rappeler à ce qu'on appelle parfois les arts premiers, entre guillemets. Nous avons beaucoup voyagé entre la Chine, le Mexique, le Mali, l'Australie, la Turquie, pour nous former un peu à ces arts extérieurs au monde occidental. Cette fois, nous allons revenir en Occident, puisque vous savez que cet atelier de 5 séances est consacré à un genre artistique que nous n'avons pas encore abordé dans les ateliers. On avait il y a quelques années évoqué le genre du paysage. Peut-être certains d'entre vous y avaient-ils participé à cet atelier-là. Cette fois, on va travailler sur un autre genre qui n'est pas que pictural d'ailleurs, hein, un genre artistique en général, qui est donc le portrait. Nous allons donc nous consacrer à cette question durant 5 séances à partir d'aujourd'hui. Alors, je vous propose que nous entrions un peu dans le vif du sujet. Après tout, cette séance est la première du genre. Alors, il y a parmi vous un certain nombre de gens qui sont là, m'a-t-on dit, aux inscriptions de l'UTB pour la première fois. Alors, puisque vous êtes là pour la première fois, je vais redire notre petite Bible que les habitués connaissent bien. Hein. Ils sont même très habitués, comme tout habitué d'ailleurs, à cette Bible-là. Voilà nos petites règles. La première règle, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Mais le but n'est pas de la monopoliser, hein. Quand on a la parole, le but c'est que les autres l'aient aussi. Nous partageons notre temps, n'est-ce pas, à l'UTB, dans ces ateliers. Nous avons une méthodologie qui peut être interne à chaque atelier. On ne va pas donc trop aller dans tous les sens, même si la séance d'aujourd'hui va être une séance assez, comment vous dire, assez désordonnée. Justement, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de méthodologie aujourd'hui, ou du moins notre méthodologie sera peut-être de ne pas en avoir. Troisième élément, nous sommes dans un atelier d'histoire de l'art, nous sommes donc des historiens et pas des amateurs ici, c'est-à-dire que nos commentaires ne seront pas des commentaires subjectifs du genre j'aime ou j'aime pas, mais bien des commentaires historiques, objectifs, nous travaillons ici sur un plan scientifique. Bien entendu, Internet n'est pas accepté dans nos séances. Hein. D'ailleurs, le but du jeu, si j'ose dire, c'est pas d'arriver à voir sur Internet ce que nous allons essayer de deviner par nous-mêmes. C'est de faire, travailler l'Internet qui est dans notre tête et pas celui qui est dans nos merveilleuses tablettes qui encombrent nos poches désormais. Enfin, le dernier point, qui n'est pas secondaire, que j'ai appelé, de manière un peu rapide, connaisseur s'abstenir, s'il y a parmi vous des gens absolument spécialistes de la question, ou qui connaissent bien tel ou tel élément, j'ai remercié de ne pas forcément monopoliser la parole, tout simplement parce que ces ateliers ont pour but justement de s'adresser à des gens qui connaissent mal très mal même, les thèmes abordés, ce qui est loin d'être un crime. Hein. Le but, c'est justement de se former à des questions. Donc, évidemment, si d'emblée, on mouille le pétard, si j'ose dire, ça n'ira pas. Donc, voilà les règles qui seront les nôtres et que je rappellerai furtivement au départ de chacun des ateliers. Alors, quand on parle du genre artistique qu'est le portrait, on commence par se dire, bah, finalement, ça ne va pas être bien compliqué, quoi, parce que franchement, un portrait, c'est évident, quoi. On sait tous ce que c'est qu'un portrait. Mais est-ce que vraiment on sait tous ce que c'est qu'un portrait? Je crois qu'on va commencer cet atelier en se demandant ce que c'est vraiment, parce que je ne suis pas sûr que la question soit aussi simple que ça, et qu'en tout cas la réponse qu'on va y apporter soit aussi monolithique que ça. Et je voudrais qu'on commence la séance. Bonjour. Alors, on va regarder s'il y a encore d'autres... Oui, il y a quelques chaises là-bas. Vous pouvez vous asseoir là-bas.
C'est monsieur et madame.
Voilà, alors si vous voulez vous... Ah oui, je connais monsieur Goulot pour des raisons. Alors, tout à l'heure, on vous fera peut-être signer. Voilà, à la fin. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que, décidément, pour commencer un atelier sur ce genre qu'est le portrait, je pense qu'il est important de s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un portrait. Hein. La réponse n'est pas si simple, une question qui, pourtant, semble simple. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un portrait? C'est quoi? Représentation
de quelqu'un.
De quelqu'un, d'un personnage.
Réel.
Réel.
Surtout en peinture.
En non, sculpture aussi.
Sculpture aussi. Non, sculpture aussi.
Littérature
aussi.
Photographie.
Bien. Donc, je retiens en gros ce qui vient d'être dit. Hein. Là, un portrait, c'est la représentation d'un personnage réel. Je bien. Hein. Pas forcément.
Ah si, autrement, on part dans la mythologie.
Ah. Pas forcément. Ah, ben, vous voyez que c'est déjà pas si simple. Hein. Est-ce que un portrait, c'est la représentation d'un personnage réel ou pas?
Ah, là est la question. Bon. Vous avez dit en tout cas que ça pouvait être peint, mais que ça pouvait être aussi sculpté, dessiné, littéraire même. Hein. On parle effectivement de portrait littéraire. Hein. Bref, il n'y a... Pardon ? Une photo, une photographie. Hein. Nadar est un portraitiste, après tout. Hein. OK ? Bien, donc voilà peut-être à première vue ce que l'on peut dire concernant un portrait. Pour un peu nous mettre en jambes hein, concernant cette question, je vous propose de nous promener deux minutes dans le Louvre et de regarder quelques œuvres parfois très célèbres du Louvre hein, et d'essayer de voir qu'est-ce que sont ces... Je vais vous les passer en vitesse là une première fois et après on va les re-regarder, les commenter un peu plus longuement. Je vous montre 5 œuvres du Louvre et on va essayer de s'interroger pour voir par rapport à cette question... Qu'est-ce qu'un portrait ? Ce que sont ces œuvres ? Est-ce que ces œuvres sont des portraits ou pas ? Jusqu'à quel point ? Alors essayons de voir. D'abord cette œuvre-là, vous savez ce que c'est peut-être ?
Oui.
Oui. C'est le portrait de Charles VII. Pas trop difficile, hein. C'est marqué dessus. Hein. Tout ne sera pas aussi facile, je le précise. Bon, je commence de manière très soft, hein, vous aurez remarqué. Hein. Bien, alors cette œuvre-là, portrait par portrait... Portrait, hein, portrait, je crois que ça... Est-ce que vous savez quel est l'auteur, peut-être, de ce moment ? Fouquet, hein, Jean Fouquet, effectivement. Fouquet, par rapport à Charles VII, c'est quoi ? C'est qui ? Un peintre courtisan ? Pardon ? Voilà, un peintre, effectivement, de la cour, un peintre courtisan. C'est donc un parfait contemporain. Hein. Vraiment, ce portrait pose pas trop de problèmes. Hein. C'est, effectivement, un portrait fait du roi de France... par un peintre de la cour, Jean Fouquet. Bien. Donc là, tout va bien. Ça marche. Alors là, un tableau, vous ne connaissez sûrement pas. Hein, j'ai vraiment pris une œuvre. Coton, mais après, quelque chose de simple. Il fallait lire des difficiles. Hein. Donc, c'est qui ? Voilà, la Joconde, hein, qu'on appelle parfois autrement. Voilà. Bien. Alors, portrait, pas portrait ?
Oui.
Portrait ? Portrait. L'auteur ? Ah, là, ça va aussi, hein, Léonard de Vinci, bien sûr. Donc, on a un portrait. Effectivement, c'est un portrait. Léonard de Vinci était absolument contemporain de la personne qui l'a portraituré, hein, qu'on appelle la Joconde, parce qu'elle est l'épouse de Monsieur Joconde, si j'ose dire, hein, Francesco del Giocondo. Donc, effectivement, on a là un portrait par Léonard de Vinci. Pas de problème, tout commence très bien. Hein. Facile, décidément, c'est facile.
Ça, c'est...
Peut-être
pas. C'est pas un portrait ?
Non, c'est pas un portrait.
Alors, d'abord, l'auteur, ça, Rembrandt, hein, ça, c'est facile, c'est une œuvre de Rembrandt. Est-ce que vous savez ce que représente cette œuvre ? Comment est-ce qu'on appelle ce tableau ? Très célèbre, hein ? Alors, c'est Bézabé, effectivement. Alors, ce serait donc la femme de... Mais alors, c'est la femme de Rembrandt ou c'est Bézabé ?
Les deux.
C'est les deux. C'est les deux. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans ce tableau ? Voilà. Rembrandt a pris comme modèle son épouse pour poser. Hein. Donc, ce qu'on aurait là, c'est peut-être Bézabé. D'ailleurs, c'est le titre du tableau. Ce serait donc Bézabé, mais Bézabé qui serait posée par sa femme Saskia. C'est ça ? Alors, c'est un portrait ou c'est pas un portrait ? Ah, mais oui, mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'un portrait, c'est la présentation de quelqu'un de réel. Saskia, elle existe. Il l'a représenté là. Alors, est-ce que c'est un portrait ou pas un portrait ? Parce que, dans ces cas-là, votre définition de tout à l'heure n'est pas très juste. Hein. Ah, il faut être logique. Hein. Pardon ?
Un portrait, c'est plus le visage.
Il n'y a pas de portrait en pied ?
Si.
Un portrait, c'est forcément uniquement... Voilà, un portrait peut être... Alors, c'est vrai que... En termes généraux, vous avez raison, hein, en termes généraux, quand on pense à portrait, on pense beaucoup au visage. C'est vrai qu'un portrait sans visage, à contrario, ne serait vraiment pas un portrait. Hein. Encore que, il faudrait regarder, hein, dans le domaine de l'art du XXe siècle, je ne suis pas sûr. Hein. Mais enfin bref, en revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que le visage joue un rôle très important. Mais c'est vrai qu'il y a des portraits en buste, en pied, à la taille, que sais-je encore. Hein. Donc ça, le fait que ce soit en pied... la totalité du personnage n'est pas un critère. Hein. Le portrait, ça peut être un morceau du corps ou la totalité.
Mais un portrait n'est pas un nu.
Ah, quelqu'un qui est nu, un portrait forcément habillé.
Non.
Vous voyez que c'est pas si simple. Oui. Là, il y a une scène. C'est-à-dire que là, ce que vous voulez dire, il y a une mise en scène. C'est-à-dire qu'on serait plus... Mais monsieur voulait dire quelque chose.
La volonté du peintre n'a pas été de représenter... représenter sa femme, mais de représenter Bézabé.
Voilà, c'est-à-dire que finalement, on en reviendrait à dire que dans cette œuvre qui est quand même la représentation de son épouse, hein, le but du peintre n'est pas d'abord de présenter son épouse, mais de représenter d'abord cette scène. Hein. Ce serait ça. Hein. Ben, je crois que c'est une bonne définition, effectivement. Hein. Mais vous voyez que la question du portrait est quand même ambiguë. C'est-à-dire qu'on a quand même un portrait, si on en reste à la définition. Tout à l'heure, je dirais les définitions du dictionnaire. Ben, voilà, hein. Sauf que, effectivement, le but du peintre n'est pas d'abord de présenter sa femme, mais Bézabé. Hein. D'accord ? Donc vous voyez que cette question du portrait est pas aussi simple que ça, finalement. Hein. On a ici, finalement, un portrait qui n'en est pas un, d'une certaine manière.
Le fait qu'il y ait deux personnes plutôt qu'une.
Ah, le fait qu'il y ait deux personnes plutôt qu'une. Qu'est-ce que ça vous... Oui, qu'est-ce que vous en...
Un portrait avec une personne.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un portrait avec une personne, mais qui est peut-être d'abord une scène qu'un portrait, comme ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Alors, pardon, j'entends quelque chose de bien là par là.
Il y a des portraits de famille.
Voilà, c'est ça. Il y a des portraits de groupe, hein. Il y a des portraits de famille. Hein. Donc le fait qu'il y ait plusieurs personnages n'est pas plus qu'un portrait uniquement au niveau de la tête ou un portrait nu peuvent être des portraits. Un portrait peut être un portrait de groupe. Hein. Il peut y avoir 3000 personnes, un portrait turé. C'est un portrait quand même. Sauf que c'est un portrait de groupe. Hein. Donc le nombre, un portrait, c'est pas forcément l'image fidèle d'une personne. Ça peut être l'image de plusieurs. Donc là, peut-être, la leçon ne le dit pas, hein, peut-être que cette personne-là est aussi un portrait scénographié, hein, pour faire de cette œuvre plus une scène historique qu'un portrait. N'empêche que, si on prend ça par l'angle du portrait, on pourrait dire que c'est un portrait double. Hein. Voilà. Sauf qu'encore une fois, c'est un portrait où l'ambition du peintre est plus de nous représenter une scène d'histoire que véritablement un portrait, fût-il double. Entre parenthèses, la scène qui est là, est-ce que vous savez quel est le moment précis ? Par parenthèse. C'est donc Bézabé, vous... C'est qui Bézabé ? Et Bézabé au bain ?
La femme de Uri.
De Uri, c'est la femme de Uri, Bézabé, oui.
Donc, qui a été assassinée pour le roi David.
Voilà, hein, parce que David avait quelques vues sur Bézabé. Hein. En clair, il est tombé amoureux de Bézabé, en la voyant sortir du bain, etc. Le problème, c'est que Bézabé était marié à Uri, ce qui embêtait beaucoup David. Alors David s'est débrouillé, je résume, hein, d'ailleurs il y a plusieurs versions, mais enfin, pour envoyer Uri dans quelques guerres extérieures, où d'ailleurs il s'est fait tuer, ce qui lui a permis, n'est-ce pas, de se rapprocher de Bézabé, dont il a eu d'ailleurs un enfant, mais qui est mort très vite. Hein. Voilà. Donc effectivement, cette scène, c'est celle-là. Hein. Et là, dans la scène que vous voyez, Bézabé reçoit... la lettre de David, lui intimant l'ordre, c'est le roi, hein, de venir auprès de lui. Hein. Donc elle est, vous le voyez, un peu pensante, bon, on la sent résignée, peut-être contente, on ne sait pas trop, enfin, elle est entre deux. Par parenthèse, la personne qui a servi de modèle ici, hein, parce que vous l'avez bien vu, hein, il s'agit bien là d'une scène d'histoire, hein, mais où, où Rembrandt a choisi une personne de son entourage pour servir de modèle à Bézabé. Il ne s'agit pas de sa femme Saskia, il s'agit de sa deuxième femme, entre guillemets, hein, qui est d'ailleurs avec laquelle il n'était pas marié, mais qui a été la compagne de sa deuxième partie de vie, dirons-nous, qui s'appelle Hendrike Stoffels, hein, dont d'ailleurs le Louvre possède aussi le portrait. Hein. Donc ce n'est pas Saskia, c'est l'autre, mais enfin, ça c'est un peu un détail. Hein, voilà. Là, voilà la même pas nue. Alors, c'est pas parce que là, elle n'est pas nue que c'est un portrait, et parce qu'elle était nue avant que ça n'en est pas. Si avant, ça n'est pas d'abord un portrait, c'est parce que ça n'est pas la volonté première du peintre. Hein. Même si, vous voyez, encore une fois, la question du portrait, décidément, est plus compliquée qu'il n'y pas. Allez, on continue. Greuze, hein, un compatriote. Hein. Alors, Greuze. Portrait, pas portrait, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ?
Portrait.
Vous êtes si sûr ?
Oui.
Bah, pas moi.
Non, je crois que c'est une allégorie.
Pardon ? Plutôt, comment s'appelle ce tableau ? Vous le connaissez ?
C'est la cruche cassée,
ça. Voilà. Hein, il s'appelle la cruche cassée parce que là, il y a une cruche cassée. Hein. C'est un tableau suffisamment allégorique et même un peu... Bon. Oui. Coquin. Hein. La cruche cassée fait allusion à d'autres cassures, si j'ose dire. Hein. Vous le comprenez bien, d'ailleurs, la jeune femme qui est là, dont un sein apparaît un peu, mais Greuze nous habitue à ce genre de vision, hein, est une personne, d'ailleurs, on sent qu'elle est un peu berdolée, comme on dirait en Bresse. Hein. Voilà, on sent qu'elle est un petit peu... Voilà, c'est un peu... Elle est presque prise en flagrant délit, si j'ose dire. On sent qu'elle est un peu gênée, elle tient bien quelques fleurs, là, mais enfin, bon... On sent quand même que c'est un peu, qu'elle est un peu gênée, quoi. Hein. Donc, il n'y a peut-être pas que la cruche qui est cassée, si vous voulez. C'est un peu ce que dit cette œuvre. Hein. Donc, décidément, est-ce que vous voyez là une œuvre qui est d'abord un portrait ou pas ? Non.
Oui, mais il y a un modèle quand même.
Ah, voilà. On est toujours dans la même ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un modèle. C'est-à-dire que Greuze a certainement fait poser une jeune fille pour faire ce tableau. Mais la question est de savoir si le but du peintre, comme pour la Bézavée de Roman, hein, était d'abord de faire un portrait ou d'abord de faire une allégorie, entre guillemets. Hein. Ben, là, l'idée penche plutôt du côté de l'allégorie. Vous voyez que cette affaire du portrait n'est pas si simple. Hein. On se dit, un atelier sur le portrait, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pendant 5 heures hein. Ben, on voit déjà que pendant 10 minutes, on patauge dans notre affaire du portrait. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident. Hein. On est donc là devant un tableau de Greuze qui, décidément, a sans doute pris un modèle, mais qui penche plutôt pour Greuze. D'ailleurs, il appelle ce tableau non pas portrait de Mademoiselle Machin, hein, mais bien la couche cassée. Hein. Après tout, le titre, ça dit quelque chose aussi. Hein. Enfin, cinquième tableau dans notre divagation à l'intérieur du Louvre, qui cette fois date du 19e. On a vu un tableau du 15e, du 16e, du 17e, du 18e, du 19e. Détail d'un tableau ? Non. Non, c'est un tableau complet. Ouais. De qui ?
De la Croix.
De la Croix. Ah, oui, de la Croix, ça y est. Tableau de la Croix. C'est pas difficile. Alors, portrait, pas portrait ? Portrait.
Portrait. Non, portrait. Je crois que c'est encore une illustration d'une idée patriotique.
Peut-être bien. Parce que vous avez dit que c'était un détail pour certains d'entre vous. Ça n'est pas un détail. Mais
on retrouve ça, ce même personnage.
On retrouve ce même personnage dans un tableau fameux de la Croix. Lequel ? Non.
Non.
Les massacres de Kyo. Hein. Les massacres de Kyo, qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années en face, si j'ose dire. Hein. Voilà. C'est en effet un détail des massacres de Kyo. Enfin, de scène des massacres de Kyo, le fameux tableau de la Croix dont je vous ai parlé déjà précédemment. Bien. Alors, portrait, pas portrait ? Non. Mais pourtant, il a inventé ce personnage-là de la Croix ?
Non, il est...
C'est une scène de Jean.
Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Hein. On est toujours dans cette ambiguïté du portrait. La figure que vous voyez là, bel et bien posée devant de la Croix. Ce que vous voyez là n'est pas une figure comme ça que de la Croix a réalisée ex nihilo. Hein. Il a fait poser quelqu'un devant lui. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un portrait. D'ailleurs, ce tableau s'appelle... Vous savez comment est-ce qu'il s'appelle ?
Non.
Jeune orpheline au cimetière. Hein, c'est une formule grecque hein, au cimetière. Hein, et c'est une étude pour les massacres de Kyo. Hein, pour la scène des massacres de Kyo, précisément. Hein. Vous avez cette tête en tête, si j'ose dire. Voilà pourquoi Delacroix l'a utilisée. Voilà. Alors, il l'a reprise. Hein, Delacroix n'est pas du genre, quand il fait une étude, à la reprendre telle qu'elle dans son tableau. Hein, il en rajoute, etc. Mais voilà. Hein. Bien. Donc, décidément, vous voyez que notre affaire n'est pas si évidente que ça. Et que, en abordant comme ça, tranquillement, en début d'année, un thème comme le portrait, on se dit, ça va être très simple et calme, eh bien, ça n'est pas tant que ça. Parce qu'on voit déjà qu'à partir de 5 tableaux, on a déjà vu qu'un portrait, ce n'était pas aussi simple. Ce n'était pas forcément la représentation de quelqu'un de très évident devant un artiste. D'ailleurs, j'avais envie, à ce moment-là de cette séance, de vous lire. Alors, je vais rallumer une seconde la lumière, si vous me le permettez. Autrement, je n'arriverai pas à lire. C'est embêtant, cette salle où on ne peut pas être éclairé et pas éclairé. Mais hélas, on ne peut pas faire autrement. Je voulais vous lire deux définitions du dictionnaire. Et vous allez voir que ça coince un peu, à mon avis. Je vais vous lire la définition du Larousse et celle du petit Robert, enfin du Robert. Hein. Larousse, qui n'est pas une trop mauvaise référence. Hein. Dans Larousse, on dit à propos d'un portrait, on dit plusieurs choses. Que c'est la représentation de quelqu'un, pas très précis à mon avis, par le dessin, la peinture, la photo, etc. On dit aussi que c'est la description orale, filmée, écrite de quelqu'un. Et enfin, que c'est l'image parfaitement ressemblante de quelqu'un. Voilà les trois définitions que dans sa notice donne le Larousse. Bon, vous voyez que la première définition n'est pas forcément d'ailleurs équivalente à la dernière, comme vous le remarquez. Hein. C'est, je trouve que le Larousse est un peu, moi je le trouve un peu flottant pour ma part. Le Robert, comme souvent et quelquefois un peu plus drastique, il est dit, en tout cas c'est la première proposition qui est donnée, représentation d'une personne réelle, spécialement de son visage, madame, hein, vive le Robert, de son visage, par le dessin, la mature, la gravure, etc. Donc, il faut quand même voir que, a priori, et même si les définitions du Larousse, qui sont plurielles, sont pour la première un peu ambiguës, pour la dernière beaucoup plus précises, on voit bien quand même que l'idée de la représentation de la réalité semble être un critère permanent. D'où quand même le statut un peu spécial de certains portraits qui ne sont pas qu'on a vus. Bézabé n'est pas un portrait, et pourtant, c'en est un. La Cruz-Cassel n'en est pas davantage un, et pourtant, c'en est quand même un. Bref, oui.
Est-ce qu'il y a des portraits où il n'y a pas le nom de la personne? Parce que...
Oh. Tout dépend ce que c'est qu'un portrait. C'est toujours le rebondissement. Alors, votre idée est intéressante, c'est qu'on pourrait dire que finalement, ça rejoint un peu l'idée de monsieur tout à l'heure, que finalement, le critère qui fait qu'un portrait est un portrait, c'est que c'est dit dans le titre. Après tout, Bézabé n'a pas. Rembrandt n'a pas dit pour Bézabé. Bézabé, portrait de. Je sais plus quoi, Henrika, je crois que c'est son nom, Stoffels, en Bézabé. Il a appelé Bézabé. Donc c'est l'intention du peintre. Peut-être qu'on pourrait dire, c'est peut-être dire une voix que l'on suivra, que finalement c'est l'intention du peintre qui fait portrait. La cruche cassée, Greuze l'appelle la cruche cassée, et pas portrait de mademoiselle Bidule, avec une cruche cassée. Donc c'est peut-être en effet l'intention du peintre, qui après tout pour nous compte, qui fait que le portrait en est un ou pas. C'est peut-être effectivement, vous avez raison, le critère très objectif. Et c'est ça qui nous intéresse ici, l'objectivité.
Il y a beaucoup de portraits dont on ne connaît plus.
Alors voilà. Il y a beaucoup de portraits dont on ne connaît plus l'objet, si j'ose dire, sauf qu'on l'a peut-être su autrefois. Par exemple, des portraits de famille, Madame Truchouette, qui a des portraits turés, le portrait est passé entre divers mains, aujourd'hui on ne sait plus, mais on sait qu'à l'époque, c'était bel et bien le portrait de Madame X. Voilà. Mais peut-être qu'on verra aussi des cas où c'est vraiment certainement un portrait, et pourtant où le titre n'en est pas un. Mais retenons cette idée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est la première, on a encore une heure, on va bétonner. Je vais vous montrer carrément une quarantaine d'heures. C'est bizarre, il y a des... C'est normal, ça ?
Oui.
C'est normal.
Bon.
C'est l'informatique.
Alors, je vais vous montrer très rapidement maintenant une quarantaine d'œuvres. Des œuvres, beaucoup sont peintes, mais il y a également des dessins ou des sculptures. On reviendra d'ailleurs là-dessus dans les séances suivantes. Je vais vous les passer très vite, une quarantaine, puis après on va revenir dessus. Mais je vous passe déjà ce florilège, là, rapidement, pour qu'après on se réinterroge sur ces questions. Parce que notre question va être maintenant ça. Comment se présente un portrait ? Finalement, c'est le nœud du problème qu'on vient de se poser. Un portrait, pour dire que c'est un portrait, comment se présente-t-il ? Comment se présente un portrait ? Eh bien, les portraits que je vais vous montrer maintenant, et que vous commencez à voir, il y en a une quarantaine, vont nous permettre de voir et de, j'allais dire, continuer cette définition d'un portrait. Je vous les montre vite, c'est simplement pour vous mettre en bouche, parce que dans un instant, nous allons tous les revoir. Il y en a de très célèbres, il y en a qui le sont moins, beaucoup d'époques sont représentées. Et voilà. Et bien, dans une heure, nous aurons défait cet écheveau-là. On y va ? C'est parti. Eh ben non. Oh, ils se ressemblent tous à cette époque, mais ça n'est pas Voltaire.
Dans les mêmes cheveux.
Oh, c'est un personnage que nous connaissons tous parce qu'il est bourguignon. Pardon ? Pas Buffon. Buffon serait un peu plus, je crois. Pardon ?
Non, j'ai...
Pas Diderot. Oui, qui serait un bourguignon au Marnais, je dirais, mais annexons la Haute-Marne. Pardon ? Rameau. C'est Jean-Philippe Rameau. Hein. Jean-Philippe Rameau est né à Dijon, hein. C'est une des gloires locales. Hein. Voilà, c'est le portrait de Jean-Philippe Rameau. Comment est-ce que vous qualifieriez ce portrait ? Qu'est-ce que vous diriez ?
En pied, profil.
Décidément, un portrait peut être en pied. Hein.
De profil.
On n'en apprend pas beaucoup sur son visage.
On ne voit pas très bien son visage. De profil. Ça nous montre qu'un portrait n'est pas forcément de face. Hein. Voilà. Donc de profil.
Dans son activité d'écriture.
Écriture musicale.
Sans doute.
Oui, on voit, moi je vois des comment ça s'appelle, des portées. Voilà. Donc on a fait un portrait de profil qui finalement ne montre pas le visage complet. Après tout, un visage c'est de face et de profil. Hein. Là c'est de profil. On le voit dans son activité. Si vous aviez à donner des adjectifs pour donner un qualificatif à un tel portrait, vous diriez quoi ? Pardon ?
Cool.
Ok, we can continue in English if you want.
Attentif.
Oui, c'est vrai, il a un côté décontracté. Hein. Vous avez raison. On le voit, il est là. Il est dans sa vie quotidienne. Hein. Il est en effet. Donc votre terme est assez juste, quoi. Et à mon avis, il dit bien se dire. On le surprend là un peu dans sa vie, quoi. Hein, voilà. Oui, voilà, il ne pose pas. Il y a un côté naturel. Hein. Donc votre idée de cool est en effet assez juste, quoi, hein, parce que il est là, il n'y a pas d'affaîtrie, hein, absolument.
Monochrome,
oui, un peu lointain. Monochrome, il y a quand même différentes couleurs.
Camailleux.
Mais c'est vrai qu'on est un peu dans.
Un peu camailleux.
Oui, un petit peu camailleux. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas un effet coloré, c'est peut-être ce que vous voulez dire, et ça c'est vrai. On voit en fait qu'il n'y a pas d'effet coloré, mais il n'y a pas d'effet de mise en scène non plus, c'est vrai. Ah oui, il y a les colonnes. Ça, les colonnes, elles sont là, elles donnent un petit décorum, hein, etc. Mais c'est peut-être le seul, parce que les couleurs sont un peu en camailleux, un peu éteintes, le personnage est de profil, on le surprend dans son intimité, il est là, tranquillement, enfin voilà. À part les colonnes, qui sont un peu surajoutées d'une certaine manière, hein, il y a comme ça une dimension un peu neutre. Est-ce qu'on pourrait dire ce mot-là ? Hein, dans un portrait comme celui-là. Vous savez qui est-ce qui a réalisé ce portrait-là ?
Carmontel.
Hein, vous connaissez un peu cet artiste ?
Pas du tout.
Oh,
il a travaillé essentiellement de profil.
Absolument. Hein. Carmontel est quelqu'un qui a fait des quantités de portraits comme ça. Et quand je dis des quantités, c'est des quantités. Et tous les portraits de Carmontel sont toujours représentés comme ça. C'est toujours des personnages de profil, toujours quelque chose d'assez neutre. Il y a souvent, ou presque toujours, une colonne, une chose comme ça, pour donner un petit aspect, pour montrer qu'on est quand même au 18e. Hein.
Rarement à l'huile.
Ce sont généralement, effectivement, des pièces graphiques, hein, comme ici. Je vous en montre une ou deux autres, hein, dont une œuvre extrêmement célèbre. Hein. Vous connaissez ça ?
Le jeune Mozart,
hein, oui. Avec son père et sa sœur, hein, dessin extraordinairement célèbre. Il appartient aux collections du musée Condé à Chantilly, vous savez, le musée célèbre, hein, du duc d'Aumale, hein, où se trouvent les trésors du duc de Berry, par exemple. Ce dessin, comme d'autres, car le musée de Chantilly possède de très nombreuses œuvres de Carmontel. Vous voyez, toujours deux profils, toujours un peu, là c'est pas un concert officiel, hein, on est dans une petite répétition familiale, hein. C'est cool là encore une fois. Hein. Alors il y a la colonne, d'accord, parce qu'il faut bien me donner un peu de solennité. Et voilà un autre portrait, c'est la pauvre princesse de Lamballe, qui connaîtra bien des problèmes un peu plus tard. Et là voilà, n'est-ce pas, deux profils, elle est en train de s'adonner à une activité. Vous voyez, elle n'est pas en représentation, elle doit plus ou moins coudre, ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Donc, effectivement, chez Carmontel, il y a un côté au niveau de la mise en place, au niveau de la proposition, c'est toujours de profil, au niveau des coloris, mis à part toujours un bout de colonne qui apparaît, il y a toujours une sorte de neutralité. Ça, alors portrait, pas portrait ? Portrait, bien sûr. Bien sûr. Mais portrait neutre. Hein. Un portrait dans lequel il n'y a pas d'affaîtrie. On surprend la personne de profil dans une sorte d'intimité quotidienne. Et ça
un buste.
Buste. Buste. Alors, c'est pas Carpeaux.
Non.
Mais c'est vrai que ça fait penser à Carpeaux.
Oudon.
C'est Oudon. Hein. C'est Oudon.
Oudon.
Oudon, H-O-U-D-O-N, hein, qui a fait ce portrait-là, car c'en est un ou c'en en est pas un ?
C'en est un.
C'en est un. Pardon ?
Ça dépend de la définition.
Ça dépend de la définition. Alors, cette sculpture que vous voyez là, à votre avis, représente qui ou quoi ? C'est une jeune femme, ouais.
Une femme qui rit.
Un peu coquine. Pourquoi coquine ? Elle regarde. Elle est rieuse, elle sourit comme ça. Hein. Un peu de côté. Hein. On est quand même au 18e. Hein. Car Oudon est un artiste à cheval sur le 18e et le 19e. Hein. Alors, à votre avis, c'est un portrait ? Alors, on a dit portrait que c'est la représentation. Tout dépend du titre de l'œuvre, vous voulez dire ? Alors,
Madame Boudre,
c'est la femme de l'artiste. Alors, portrait, pas portrait. D'abord, c'est un portrait comme ceux de Carmontel qu'on a vu. Non, quelle est la différence? Alors, il est sculpté d'abord. Hein. Donc, il y a une différence au niveau même de du médium. Hein. On a vu un portrait dessiné avant, on a vu plusieurs. Ça, c'est un portrait sculpté, c'est donc pas le même médium. Est-ce que c'est la seule différence ? Il est moins de face, oui. Alors, il est de face au lieu d'être de profil.
Oui, oui, oui. Il regarde à gauche.
Il est moins neutre, il est plus expressif. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la neutralité carmontelienne, où on a toujours un personnage de profil systématiquement. On est là dans quelque chose où la figure joue une sorte de rôle. Hein. Donc, il y a là une sorte d'expression, il y a du sentiment, comme on disait au 18e. Hein. Donc, vous voyez qu'un portrait est quelque chose qui peut être, on voit déjà deux types de portraits, hein, soit très très neutre, type Carmontel, soit au contraire doté d'une sorte de manière de poser, hein, qui lui donne du sentiment, une afféterie particulière. Très bien. Mais, la fameuse dentelière. Alors, quid, par rapport à notre question, comment se présente un portrait, hein? Portrait, pas portrait.
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 Sa fonction.
Pardon.
Travail.
Ouais. Donc ce serait une œuvre qui d'abord représente un travail, ou du moins quelqu'un en train de faire un travail. Hein. Dans ces cas-là, c'est un portrait, c'est pas un portrait.
Elle est très reconnaissable.
Pardon.
Elle est très reconnaissable s'il n'y a pas.
Donc c'est une femme sans doute très reconnaissable. Si on prend la définition de plusieurs d'entre vous tout à l'heure par rapport au portrait. Qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Le portrait d'une dentelière.
Le portrait d'une dentelière. Alors, est-ce que c'est d'abord un portrait ou d'abord une dentelière ? C'est peut-être plutôt d'abord une dentelière. C'est un peu le même cas de figure que tout à l'heure, décidément. Hein. C'est-à-dire que là, Vermeer, hein, vous connaissez ce tableau illustre, hein, Vermeer représente effectivement une femme en train de faire de l'endette, c'est une dentelière. Hein. Mais l'idée de Vermeer est sans doute plus de représenter le statut d'une dentelière, hein, qu'une personne précise qui a sans doute posé pour lui pour représenter une dentelière. Vous voyez qu'un décidément, le portrait est quelque chose d'ambigu dans sa définition même, ça représente sûrement quelqu'un qui l'a observé, et pourtant, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment un portrait.
Mais ce n'est pas quelqu'un.
Voilà, c'est. Ben, disons que disons que. On pourrait presque dire que c'est plus le portrait d'un type d'artisan, voilà, hein, que le portrait d'une personne, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que ce qui intéresse sans doute plus Vermeer ici, c'est pas tant de représenter sa belle-sœur, sa servante, ou je sais pas quoi, en train de faire la dentelle, mais plus de d'ériger le portrait de la dentelière, en quelque sorte. Hein. Donc vous voyez que cette notion d'essayant de portrait, elle est pas si simple. Hein. On est là dans une complexité bien humaine, d'ailleurs.
En fait, excusez-moi.
J'en prie.
Beaucoup plus dans l'ombre et le tableau toujours aussi intéressant.
Oui, absolument. Oui. Oui, finalement, voilà. Même si la figure n'était pas reconnaissable, parce que la torpeur, la ténèbre envahirait la scène, bah, le tableau resterait effectivement une dentelière, même si on ne la reconnaissait pas. Quoi. Ah ah. Jeanne d'Arc, ça, jusque-là, c'est facile. L'auteur.
Du 19e.
19e, absolument. Alors peut-être la nationalité de l'auteur, déjà. Commençons par là pour un peu.
Anglais.
Français.
Bravo, il est anglais. Très bien. Là, je suis. Bravo, je suis impressionné. Mais en fait, je suis pas impressionné parce que. Attendez, pas moi, hein. Anglais. Ah, mais maintenant, le nom de cet auteur anglais. Je vais vous mettre un peu sur la voie. Il a un nom qui est le même, mais qui ne s'écrit pas pareil, qu'un autre peintre, mais lui français, et du 19e siècle. Je crois que j'ai entendu, non ? Non ?
Tissot ?
Pardon ?
Tissot ?
Non. Il y a un peintre français du 19e, qui a un nom qui se prononce grosso modo pareil, même si l'accent est un peu différent, sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Non. Alors, je ne vais pas vous faire... Pardon ? Vous leur donnez un mot clan au chat ? Alors, je vous coupe la langue, si j'ose dire. Voilà. Ça, c'est qui, papa ? Alors, vous l'avez dit, ça représente Jeanne d'Arc, c'est une peinture 19e, anglaise, de Millet. Simplement, alors quid ? Portrait, pas portrait ?
Imaginaire.
C'est discutable.
Discutable ? Bah, finalement, tout est très discutable. Qu'est-ce qu'on discute, hein ? Parce que... Alors, c'est pas un portrait.
Non.
Non. Voilà. Et voilà. Je crois que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que Millet, manifestement, n'a jamais connu Jeanne d'Arc. Nous sommes d'accord. On peut penser d'ailleurs qu'il n'a pas non plus connu de portrait qui aurait représenté Jeanne d'Arc. Parce qu'il peut y avoir ce problème-là aussi. Hein. Et d'ailleurs, on se posera peut-être un jour la question. Hein. Quand quelqu'un fait le portrait de quelqu'un qui a vécu bien avant, mais d'après un portrait qui a existé, est-ce que c'est un portrait ? Ah. En tout cas, là, Millet a certainement pas connu ni Jeanne d'Arc, ni de portrait de Jeanne d'Arc, tout simplement parce qu'il n'y a pas de portrait de Jeanne d'Arc. Donc ça, c'est clair. Hein. Alors, vous, votre idée, c'est que c'est pas un portrait. Hein. Peut-être, moi, je préférerais aller vers la nuance que certains d'entre vous ont apportée en disant que c'est un portrait imaginaire. Hein. Donc, évidemment, c'est pas un portrait au sens littéral. Pardon. Voilà, on pourrait dire plutôt effectivement une représentation. Hein. Quelquefois, on appelle ça aussi, dans certains cas, un portrait rétrospectif. Ça peut être aussi une manière de dire. Hein. En tout cas, ce n'est pas un portrait au sens, j'allais dire, le plus resserré du terme. Hein. On a la représentation de quelqu'un, un portrait imaginaire, voire rétrospectif. Mais en tout cas, on ne peut pas parler d'un portrait au sens plein du terme. Ça rejoint ça, c'est de qui, ça ?
Jeanne d'Arc,
toujours, mais par qui ?
Ingres.
Hein. Ben, finalement, c'est la même chose. Hein. On a là un autre portrait de jardin par Ingres, c'est le même genre de choses. Bien, on continue.
Oh, ça, c'est un espagnol.
Alors,
c'est un espagnol.
Peut-être d'abord, avant de voir de quoi il s'agit, peut-être une idée, pour commencer par là, d'une époque et d'une école picturale. Espagnol.
Espagnol, oui. Espagnol.
Espagne ? Que l'époque ?
18e.
17, 18 ?
18e.
17, Espagne 17e ?
Oh, c'est plus...
Une idée d'un auteur, peut-être ?
Velázquez ?
Non.
Une chose de Velázquez ?
Non. C'est pas Velázquez.
Non.
C'est pas Velázquez.
En tout cas, un espagnol du 17e, grosso modo. Hein ? Bon. Dernier prix. Est-ce que... alors, au-delà de ça, donc nous voilà devant un portrait qui serait un portrait espagnol du 17e, peut-être un peu plus tardif. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette œuvre ? Par rapport à notre interrogation, qu'est-ce que le portrait ? Comment se présente un portrait ?
Oui, mais il tient une statue, apparemment.
Il tient une statue.
Alors, est-ce que ce n'est pas le portrait d'un sculpteur ?
Ah, est-ce que ça n'est pas le portrait d'un sculpteur ? Autrement dit, qu'est-ce que nous dit ce portrait au-delà du portrait lui-même, quoi ? Qu'est-ce qu'on a tiré d'un portrait tel que celui-ci ? Qu'est-ce que, par rapport à d'autres portraits qu'on a vus avant, hein, nous amène un portrait tel que celui-ci? Ah, ça peut être, pas sûr non plus, mais peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que vous venez de dire, hein, par rapport au portrait antérieur?
C'est qu'il tient quelque chose.
Voilà, il tient quelque chose, et ce quelque chose...
C'est un emblème.
Parce que tout à l'heure, Madame de Lamballe, elle tenait quelque chose.
Oui, mais c'est un emblème.
La cruche cassée aussi.
Pardon ?
La cruche cassée aussi.
La cruche cassée tenait quelque chose aussi, sauf qu'on a vu que la cruche cassée n'était pas forcément tout à fait un portrait. Rameau tenait quelque chose aussi.
Mais c'est un emblème.
Voilà. Là, alors, un peu comme pour Rameau, remarquez, vous avez raison, hein. Ça, cet élément-là, est un emblème, mais un emblème qui là, dit quoi, par exemple ? Voilà, il s'agit peut-être d'un sculpteur. Est-ce que c'est la seule solution, d'ailleurs ?
Non.
Quelle peut être l'autre solution ? Pardon ? Un savant ? Oui, un symbole ? Un symbole de quoi, par exemple ? Voilà, ça peut être un collectionneur, hein. Un collectionneur qui exhibe. Quel est l'intérêt de montrer comme ça une chose qu'on tient ? Voilà, c'est une manière de montrer son statut, effectivement, hein. Bien. Donc, finalement, ce que l'on remarque dans un portrait tel que celui-là, c'est que le portrait lui-même, le visage, si vous voulez, le physique, ça compte, mais il n'y a pas que le portrait. Il y a dans un portrait, ce qui compte aussi, on l'a déjà un peu aperçu avec Rameau, Madame de Lamballe, par exemple, ce qui compte aussi, c'est ce qui se passe entre les mains du personnage. Les attributs ou l'attribut, c'est très important. Ça vient, le portrait, ce n'est pas que les traits du visage, si vous voulez, hein. C'est décidément ce qui se passe autour, et en particulier, le ou les attributs. Un portrait, c'est aussi ça. Hein. C'est ce qu'il y a. Donc le portrait, ce n'est pas une immeuble physique.
Il y a une information supplémentaire.
Voilà. Une information supplémentaire est donnée.
Sur la droite, cette espèce de rideau
Alors oui, un rideau. Là, peut-être, j'allais dire, pour créer peut-être une sorte de séparation à droite, hein, pour installer à droite du tableau, à mon avis, pas de sens particulier, mais on pourrait se poser la question, effectivement, hein, du décor. Alors, ça n'est pas un tableau espagnol du 17e, c'est un tableau italien du 16e, hein, de Bronzino. Hein, voilà.
Qu'est-ce qu'il a dans le dos ?
Pardon ?
C'est la rideau de la Renaissance italienne
que j'ai rien dit. Ah, il faut dire, il ne faut pas hésiter. Hein, parce qu'en plus, on a le droit de se tromper. Hein, c'est pas du... On est entre nous, donc même si on dit des petites bêtises, c'est pas gênant. Hein. Pardon. Alors, oui, pardon, je vais un peu vite. Alors, évidemment, vous dites, ben, finalement, c'est pas qui c'est, donc c'est pas un portrait. Sauf qu'à l'époque où Bronzino l'a peint, on savait certainement qui c'était. Hein. Donc, on peut quand même dire c'est un portrait, mais on ne sait pas qui c'est. Vous soulignez là, effectivement, quelque chose qui est intéressant, c'est une ambiguïté. On l'a dit tout à l'heure, un portrait, on sait qui c'est. Sauf que là, d'ailleurs, quelqu'un avait déjà dit tout à l'heure, hein, on a la représentation qui est sûrement un portrait, mais de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a des choses tout à l'heure qui sont des représentations de gens certains, type la dentelière de Vermeer, c'est des représentations de gens certains, on dit c'est pas un portrait. Là, on a quelque chose qui est certainement important, sauf que c'est pas la personne qui a présenté. Hein.
Oui, mais alors, est-ce qu'on a pu perdre le nom de la personne?
Ah oui.
Parce qu'à un moment donné, on l'a vu.
Certainement. Hein, certainement.
Et simplement, ça s'est perdu.
C'est ça, exactement. Exactement.
C'est-à-dire que.
Oui, pardon.
Le titre est-il du peintre ou a-t-il été attribué?
Non, c'est un titre attribué après. C'est un portrait d'homme tenant une statuette. Alors, on ne sait d'ailleurs même pas si c'est un sculpteur, un collectionneur, ou même quelqu'un qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui tient la statuette simplement pour se donner un peu un statut de savant, de lettré. Voilà, on ne sait pas, on ne sait rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Plusieurs mouches. Il y en a une là, il y en a une là. Alors, ce portrait, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Drôle de métier.
Drôle de
métier.
Drôle de métier. Peut-être pas tant que ça, mais on verra. Alors, qu'est-ce que vous voyez là ? Une dame.
Très apprêtée.
Avec des mouches, beaucoup de mouches. Mais des mouches, celles qui décorent, hein. Des mouches qu'on se colle pour faire des sortes de grains de beauté, entre guillemets, hein. Jusqu'à la gorge, hein. Voilà. Oui.
Elle a des traits très masculins.
Des traits très masculins,
oui.
Coluche. Oui, une sorte de coluche grimée en femme mouchée, si j'ose dire. C'est étrange, ça. Ça va être quoi, ça ?
Un comédien.
Un comédien. Comédien. C'est le cas. Un comédien, comédien. Car ce que vous avez là n'est pas... Oh, je ne vais pas vous le dire. Vous allez le trouver. Bon, oui, donc... on est là, effectivement, devant quelqu'un du domaine des arts dramatiques. En fait, hein. Comédien.
Travesti.
Alors, c'est un travesti. Hein. C'est-à-dire, c'est un homme que vous avez représenté là, déguisé en femme. Hein. Donc, c'est une sorte de travesti. Mais dans le domaine du théâtre, un homme peut devenir un singe ou un dieu ou une femme. Ou... Et une femme peut devenir un homme. Enfin, tout est possible. Hein. Le théâtre, c'est le théâtre. Hein. Ou alors, c'est plus le théâtre. Hein. Donc, on a là un homme déguisé en femme, comédien, vraiment.
Opéra.
Opéra. Et peut-être certains d'entre vous connaissent-ils même l'opéra. Alors, disons que c'est quelqu'un qui, sans doute, chantait haut, sans être forcément castrat. Au XVIIIe siècle en France, le castrat, on en importe, si j'ose dire. Hein. Mais là, c'est un Français. À ma connaissance, il n'était pas castrat, mais il pouvait chanter haut. Je vais vous mettre sur la voie. C'est un opéra écrit par quelqu'un dont on a vu le portrait tout à l'heure. Rameau. Alors, ça pourrait, mais c'est pas. Un opéra de Rameau, à mon avis, enfin moi, c'est un de mes opéras préférés, d'une drôlerie totale, qui est, on rigole jusqu'à la fin, c'est magnifique. Il faut, si vous n'avez pas cet opéra, vous foncez tout de suite à l'acheter et vous n'écoutez que ça en boucle. C'est un opéra sublime, hein, admirable, hein, d'une drôlerie totale, d'une grande tristesse aussi. Un opéra suffisamment mythologique. Platée. Histoire de la reine des grenouilles. Car Platée, la reine des grenouilles. Un sublime opéra, magnifique. Je ne vais pas vous le chanter, mais je suis incapable. Je connais... Non. On n'a pas le temps. Non, mais j'adore cet opéra. Vraiment, j'aime énormément. Et bien là, vous avez un chanteur qui s'appelle Joliotte dans le rôle de Platée. Voilà. Alors là, par rapport à ce qu'on a vu déjà, qu'est-ce que ça vous dit par rapport aux autres portraits qu'on a vus? Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est un portrait dans le rôle de.
Voilà, un portrait dans le rôle de. Hein. Ça, c'est un type de portrait qu'on n'a pas trop vu, peut-être, pour l'instant, non?
Ah oui, mais il y en a eu un certain nombre au 18e.
Absolument. Hein. Mais c'est vrai que c'est un type de portrait qui, pour l'instant, ne fait pas partie encore de notre petit répertoire. Hein. C'est pas un portrait... Ça n'a rien à voir avec les portraits de Carmontel de tout à l'heure. Hein. Il n'est pas de profil cool dans son intimité, hein, avec une colonne derrière. Hein. C'est pas non plus un portrait avec un attribut un peu sérieux, comme ce qu'on vient de voir. Bref, on est vraiment devant un type de portrait différent. Pierre Géliotte, dans le rôle de Platée. Et nous comptons tous Platée pour la semaine prochaine. Les deux sœurs. C'est le titre du tableau, qui va d'ailleurs peut-être répondre à votre interrogation de tout à l'heure. C'est de qui, ça? Vous avez une idée?
19e. Je ne sais plus qui.
Ça fait penser beaucoup à un artiste proche de lui.
Mais
qui
après.
C'est peintre lui-même.
Après.
Un peu plus jeune, mais contemporain. D'ailleurs, au départ, il a été son élève et puis est allé dans d'autres directions après. Pas David.
Non.
Parce que c'est David qui était en fait le maître d'Ingres, pour faire vite. Chassériau. Bravo. Chassériau. C'est un tableau de Chassériau. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait, car c'en est un, de Chassériau? Elles sont pas cool. Oui.
Ça pourrait être des jumelles.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être des jumelles? Elles se ressemblent. Et même, en gros, non seulement elles se ressemblent, mais elles ont grosso modo le même vêtement. Hein. Donc vraiment, ça pourrait être des jumelles. Vous faites bien dire ça pourrait parce que ce n'est pas des jumelles, mais elles sont présentées de telle manière qu'en effet, on pourrait croire que ce sont des jumelles, effectivement. Oui, tout est pareil, jusqu'au collier. Hein, oui, vraiment, et en plus, elles se ressemblent. Hein, mais ce sont deux sœurs.
Oui, deux sœurs.
Et qu'est-ce que vous auriez à dire? Les qualificatifs que vous donnez à ce portrait, c'est quoi? Un peu comme on a essayé de le faire tout à l'heure pour Carmontel.
Le goût
très posé.
Très
posé. Raide.
Qui se veut officiel.
Qui se veut officiel.
Au moins en famille.
En famille.
Elles sont un peu dérangeantes.
Oui.
Par le double.
Oui, il y a effectivement cette dimension de double, de proximité des deux figures. Elles sont très proches. Donc cette espèce de on se demande si on ne louche pas finalement, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc il y a un côté, c'est presque trop. Comment dire, trop radical pour être honnête, quoi. Enfin, il y a un côté. Finalement, on a quelque chose. Moi, je crois que vous disiez, c'est pas cool. Je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je trouve à la fois qu'on est là, on pourrait passer dans une maison et pouf, se trouver face à ces deux sœurs qui sont là en train de se faire des petites confidences. Et hop, vous arrivez dans le salon, hop, vous rentrez là. Elle vous regarde, vous êtes surpris, parce qu'on n'est pas non plus devant un portrait. Alors, c'est pas un portrait. Elles ne sont pas en train de rigoler comme Madame Houdon tout à l'heure. Elles ne sont pas en train de porter je ne sais quel ouvrage pour montrer qu'elles sont très intelligentes. Elles ne sont pas déguisées en platé, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est peut-être pas, entre guillemets, cool, mais que c'est en même temps très, très neutre. Hein. D'ailleurs, c'est tellement neutre que elles sont habillées de la même manière, elles sont posées boum boum l'une à côté de l'autre. Au lieu d'être de profil, elles sont de face, si
cependant,
vous voulez.
Cependant,
hein.
Elles ne regardent pas dans la même direction.
Alors,
elles ne regardent
pas tout à fait dans la même direction. Hein. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que finalement, ce qu'on pourrait presque dire, mais c'est un peu la même chose pour Carmontel. D'ailleurs, vous l'aviez dit un peu pour Carmontel, c'est que cette espèce de neutralité même, elle crée un autre sentiment qui peut être un sentiment un peu dérangeant. Moi, j'avoue que, vous savez, les portraits de Carmontel qu'on a vus tout à l'heure, quand vous en voyez un, très bien, mais quand vous en voyez deux, trois, quatre, dix, tous de profil comme ça, c'est, à force d'être tous pareils, c'est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, finalement, on a une sorte de neutralité, mais qui est tellement neutre qu'au bout d'un moment, c'est étrange. Hein, parce qu'il n'y a aucun effet, là. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'attribut, il n'y a pas de déguisement. Elles sont là, plantées l'une à côté de l'autre, elles ne rigolent pas. Elles sont figées. Donc cette espèce de neutralité-là, qui est un peu celle de Carmontel, d'une autre manière, hein, crée un sentiment d'étrangeté, effectivement. Hein. Donc vous voyez qu'on est là devant ce tableau. Alors, portrait, pas portrait?
Portrait double.
Portrait, double, double portrait. Ah, pourtant... Et on sait que ce sont les deux sœurs de Chassériau. Alors comment on fait, là? Ah oui, il aurait pu écrire mes deux sœurs, ou mesdemoiselles, truc chouette, les machines Chassériau, je ne sais plus leur prénom.
Il
ne
les a pas arrangées pour ses sœurs, quand même.
Oh, moi je ne les trouve pas mal. Enfin, chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime beaucoup le 19e, alors bon. Voilà. Oui. Oui.
Oui. Elles sont un peu tristes.
Oui. Ah, c'est pas d'une gaieté folle, hein. Non, c'est d'accord. Il y en a une qui a deux bagues.
Non.
Là. Dans l'autre main. Oui, il y a presque un... C'était la seule différence. Les bagues ne sont pas sur les mêmes doigts.
Est-ce que la rose a une signification? C'est celle qui n'est pas mariée.
Peut-être, peut-être. La rose peut avoir effectivement une signification féminine. Alors, là encore, hein, vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit, hein, que les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. C'est certainement un portrait, parce que c'est la présentation des deux choses de Chassériau. On le sait, il l'a fait pour ça, pour des raisons familiales, intimes. Il n'y a pas de problème. Hein. Il le fait d'une manière assez radicalement neutre, qui traite tellement radical et tellement neutre que ça en devient dérangeant. Mais pourtant, il lui donne comme titre « Les deux sœurs ». Manque de peau. Donc vous voyez que le titre, qui était une piste intéressante, hein, est quelque chose qui n'est pas non plus l'élément qui, en permanence, va nous permettre de dire « ce portrait, c'en est un hein, ». Parce que la voix d'un portrait, qui pourtant par le titre, ne dit pas que c'en est un. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'en est un. Décidez. Oui.
Est-ce que dans son esprit, par rapport au titre, est-ce que dans son esprit, ce n'était pas de représenter la similitude de deux sœurs?
Alors, il y a... Voilà. Il y a peut-être d'ailleurs les deux choses. C'est-à-dire la volonté à la fois de représenter ses sœurs, hein, c'est un tableau familial, d'ailleurs donné par le neveu de Chassériau au Louvre, donc c'est un tableau familial, mais c'est également un tableau qui, au-delà d'une référence familiale, veut peut-être montrer le côté, comment dire, j'allais dire la fratrie, des frères, mais enfin, la dimension familiale de deux sœurs, quelque chose, la gemellité qu'il peut y avoir entre deux sœurs, qui même si elles ne sont pas jumelles, le sont. Vous avez raison, c'est peut-être autant le portrait de deux personnages particuliers que de la notion de sœur.
Hein.
Voilà. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il insiste. Voilà. Voilà.
Il y a une ambiguïté, on ne sait pas si elles sont sœurs.
Voilà, absolument. Ouais. Donc, et pourtant, on ne pourrait vraiment pas dire que ce n'est pas un portrait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais ce n'est pourtant pas le titre que donne l'auteur. Il ne met pas portrait de mes deux sœurs. Alors, quelle époque ?
18e.
Quel peintre ?
Nattier.
Quel modèle ?
Une des filles de Louis XV.
Une des filles de Louis XV, absolument. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait ? Car c'en est un. Hein.
Il y a la flamme là à droite.
Il y a une flamme à droite.
Ah oui. Sur une si belle couronne.
Qu'est-ce qu'elle fait ? Oui. Ah. Ah. Une petite affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce feu qui est sur la droite ? Un feu sur une commode.
Oui, une belle commode.
Une commode. C'est de la pierre, c'est pas une commode.
Un autel.
C'est un autel.
La pierre.
Il y a donc un feu sur un autel. L'absence. Le sacrifice. Du décorum. Ah, voilà, une sorte de portrait. Alors, c'est pas le président de la République ni une présidente. C'est une fille de Louis XV. Il faut un peu de décorum. C'est simplement un décorum qui est là pour donner une sorte de, d'aspect un peu noble à ce qui est, après tout, une des filles de France. Non.
Mais
il y a un symbole.
Est-ce que
est le symbole ?
Est-ce que ce ne serait pas Madame Louise ?
Alors, je ne sais plus. On va le savoir dans un instant.
Qui est devenue carmélite ?
Je ne crois pas.
Ah.
Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. On va, je les confonds toutes les quatre et je ne sais jamais laquelle est laquelle. Oui, pardon ?
Le livre, a-t-il un titre qu'on peut lire ? A-t-il un sens ?
Je ne crois pas. Alors, vous disiez que il y a derrière cet autel qui se consume une idée. Que vous auriez à dire peut-être sur son vêtement ? Un peu déshabillé.
Non, mais c'est normal.
C'est
normal à cette époque.
Chez Nattier, effectivement, on est assez habitué à ce genre de côté cool du vêtement.
Mais
non, c'est assez, là aussi, en camailleux, dirons-nous. Hein. Alors, est-ce que c'est après une présentation d'une des filles de Louis XV comme ça, avec un peu de décorum, parce que sa fille de Louis XV, alors on fait un petit feu sur un petit hôtel, parce que c'est toujours sympathique, c'est tout ?
Il y a un côté officiel, certainement.
Il y a un côté officiel, et c'est tout. Pas de sens.
Si, mais...
Mais quel sens ? Il y a un sens. Pardon ? On a dit qu'il y avait un symbole. Alors, creusons un symbole. Qu'est-ce que peut évoquer un feu sur un autel ? Une divinité, peut-être ? Quelqu'un qui en permanence est comme ça, près d'un autel, pour entretenir un feu, ça fait penser. Une vestale. Eh bien, c'est une vestale. Vous avez une des filles de Louis XV représentée en vestale. Alors, je ne sais plus laquelle, mais vous allez savoir tout de suite. C'est un Henriette. Henriette de France. Hein ? Représentée en vestale, qui évoque le feu, un des quatre éléments. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Là, vous avez le feu. Alors là, ça veut dire que vous avez sans doute l'eau, la terre et l'air. Et puisqu'il y a... Il y a combien de filles, Louis XV?
Au moins 6.
4, oui. Alors il y en a eu plus que ça.
Il y en a eu plus.
Mais 4 ont vécu largement, dirons-nous. Oui. Et ça tombe bien, il y a 4 éléments. Chacune a été représentée sous les traits d'un élément. Là, vous avez le feu, voilà la terre. Présentée sous les traits de Pomone, la déesse des fruits. Tenez-vous. Là, vous avez Madame Victoire, qui représente l'eau. Et puis là, Adélaïde de France, en Junon, qui est l'air. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ces 4 portraits-là? Car ce sont bien des portraits.
Elles se ressemblent.
Mais par rapport à notre typologie des portraits qu'on essaie de dresser pour comprendre, après tout, ce que c'est qu'un portrait, essayer de démêler cet écheveau un peu particulier de qu'est-ce qu'un portrait? Qu'est-ce qu'on aurait à dire?
Ils sont mythologisés.
Ils sont mythologiques. Il y a une mise en scène. Ça pourrait nous rappeler quel autre portrait qu'on a vu précédemment, peut-être?
Le jeune homme...
Jeanne d'Arc.
Le jeune homme
la différence avec Jeanne d'Arc, c'est que Millet n'avait jamais vu Jeanne d'Arc. Hein, alors que là, Nattier, il avait sous les yeux les filles de Louis XV. Hein. Oui. Sauf que là, il y a vraiment la volonté de représenter Madame Adélaïde. Hein. Le jeune homme et la statuette. Un peu, effectivement, parce qu'il y a l'idée d'attribut, là. Hein. Mais je trouve que ça va encore plus loin, pour ma part. Moi, ça me rappellerait plutôt autre chose qu'on a vu. Platé. On est là dans le déguisement. Hein. C'est-à-dire qu'on fait jouer au portrait un autre personnage. Hein. Voilà. Tout en montrant quand même... Platé, on voit bien que c'est un homme. D'ailleurs, vous l'avez trouvé vous-même, hein, que c'est pas Platé. Hein. C'est Pierre Géliot en Platé. Là, c'est pas Junon, vous voyez. Hein. C'est une fille de Louis XV en Junon. C'est l'idée, finalement, du portrait déguisé. Nattier en a fait beaucoup, hein, énormément. C'est très à la mode, je vous le dis, pour vos prochains portraits. Faites-vous représenter en Hercule, en Junon, en Minerve, en Mars. Hein, tout ça est très, très bien. Ou en Diane, par exemple. Hein, voilà un portrait de Diane, mais qui est en fait le portrait de la Diane Bonnier de la Mosson. Et ça. 19e. Oui, pardon, oui. Je crois que j'entends le nom du peintre. Ah non. C'est mon côté Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette œuvre? Toujours par rapport à notre question, qu'est-ce qu'un portrait? Comment ça se présente? Comment c'est fait? Comment ça fonctionne?
Comment s'appelle ce peintre?
Mise en scène. Et là, dans la mise en scène, qu'est-ce qui compte?
Corbin, je crois.
Le décor. Là, le décor est absolument fondamental. C'est-à-dire que finalement, là, ce qui compte dans ce tableau, qui est l'œuvre de qui? Vous avez une idée du peintre, peut-être? Peintre connu, mais pas non plus super illustrissime.
C'est fait
créer Arnaud. Ouais, on est avant. Oui, mais on est avant le moment où l'art japonais va avoir tellement d'importance. C'est un portrait fait par Gros. Faisons hein. Christine Boyer. Et. À votre avis, là, le décor de ce portrait est là pour souligner quoi? Pour dire quoi? On a dit que, finalement, là, le décor... On a fait un peu la même réflexion pour les attributs tout à l'heure. Hein, que le décor était là pour, dire, enfin, pour compléter le portrait. Mais il complète dans quel sens? Alors, non, là, c'est pas un opéra ni une comédie. C'est bien... d'ailleurs, elle est habillée à la mode du temps. Il n'y a donc pas là de déguisement. Hein. C'est vrai qu'on pourrait penser, hein, mais non. L'eau peut avoir de l'importance.
C'est un peu nostalgique.
Oui, il y a une dimension nostalgique, effectivement, mélancolique.
C'est déjà romantique.
Oui, c'est déjà romantique. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un tableau comme ça est déjà romantique?
La nature.
Eh voilà, la nature. Hein. Vous savez que chez les romantiques, ce qui est important, c'est le lien, notamment, c'est pas chose, entre l'homme et la nature. C'est-à-dire la nature, finalement, est vraiment le cadre de l'homme. Là, il y avait quelque chose qui va entre l'homme et la nature. Hein. La femme et la nature, en l'occurrence. Hein. Donc la nature est, en quelque sorte, le miroir de l'homme, ou de la femme, le miroir du sujet. Donc la nature est là pour accompagner ce que la figure a à nous dire. Hein. Donc la nature fait partie du portrait. Peut-être qu'on y reviendra.
Portrait de famille.
Portrait de famille, hein. C'est quoi, ça? C'est, je veux dire, quelle école, quelle époque?
17e.
Flamand ou hollandais, oui. Quelle époque?
17e.
Du 7e, voilà. Hein. Donc, effectivement, on a un portrait de famille, hein, du avant au stade, hein, voilà. Donc, tout à l'heure, on l'a déjà un peu dit, mais un portrait n'est donc pas forcément une image d'une seule personne. Hein. Il peut y avoir plusieurs figures. Hein. Le portrait de groupe, c'est un portrait. Là, vous avez un portrait de groupe. Hein. Il y a plein de personnes. Bien. Ah. Ah, ah, ah. Marianne. C'est vrai que ça ressemble à nos bustes de nos mairies, mais il n'en est rien. Ah, mélancolique. Elle lève les yeux au ciel. Pardon ? Une actrice, absolument. Hein. Une actrice qui joue quoi ?
La tragédie.
Une tragédie. Vu sa tête, effectivement. Hein. Vous voyez un élément qui peut peut-être vous donner une idée. C'est une tragédie, et pourtant... Le sein à l'air, le sein nu.
C'est fait.
Pourquoi ?
C'est Athalie ou Fed.
Ah, peut-être.
Elle va se
poignarder. Elle va se poignarder ou être poignardée. Ah,
c'est Cléopâtre.
Qui ça peut être si elle va être poignardée ?
Cléopâtre.
Il y a beaucoup de possibilités. Cléopâtre va être piquée par un serpent. Ah oui, c'est ça. Donc ça pourrait être ça. C'est bon, hein, puisqu'elle l'est au sein. Théâtre ? Est-ce que c'est forcément une actrice de théâtre ? Peut-être de l'opéra. Un opéra célèbre du XVIIIe siècle. Un artiste, je crois qu'il est autrichien, jamais c'est autrichien, je crois que c'est autrichien, mais très à mode en France au XVIIIe. Gluck. Et qui a écrit. Pardon ? Alors pas Eurydice. Non plus. Non plus. Iphigénie en Tauride. Il a écrit une Iphigénie en Tauride, une Iphigénie en Tauride. Si ma mémoire est bonne, l'Iphigénie en Tauride se termine bien. C'est-à-dire qu'Iphigénie est pas tuée, on trouve un substitut pour le sacrifice, alors qu'en Tauride, elle est tuée, d'où la tête de Sophie Arnoux, hein, qui était une chanteuse célèbre et qui a joué dans le rôle, le titre d'Iphigénie en Tauride. Alors là aussi, ce portrait-là, qui représente Sophie Arnoux, mais dans le rôle d'Iphigénie, c'est donc bien un portrait, qui nous rapproche de quoi ?
De Platée.
De Platée, hein, de Géliot, par exemple. Hein. Voilà, on est donc effectivement dans ces portraits déguisés, pourrait-on dire. Ouais, on est autour du 1800-1810. Hein. Ouais.
La mode de l'Europe, c'est bien, bien l'Empire.
Qu'est-ce que vous auriez à dire d'un portrait comme celui-là ? C'est un portrait, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Qu'est-ce que vous auriez à dire ? Oui ? Très réaliste, oui. Ça vous, je ne sais pas, ça nous rappelle quoi de ce qu'on a déjà vu ? Oui, la tête. À l'époque, surtout pour les femmes, il faut que le buste, même si les hommes, il faut que le buste soit menu, il ne faut pas avoir d'épaule. Hein. Il doit être comme ça. Donc, vous diriez quoi par rapport à... Pardon ?
Du temps de David.
Du temps de David. Alors, et pour le qualifier, ce portrait, vous le rapprochez de quel portrait qu'on a pu voir et vous le qualifieriez de quelle manière ? Oui, moi je trouve que ça fait penser un peu... Bon, les deux sœurs, elles faisaient un peu la gueule, si j'ose dire. Bon, d'accord. Mais là, elle est plus enjouée. Mais enfin, il y a des gens plus enjoués que d'autres. Hein. Il y a des gens, on les voit, ils rigolent pas. Il y a des gens, on les voit, ils rigolent tout le temps. Hein. Voilà, donc là, on a une jeune femme plus enjouée. Les deux sœurs étaient un petit peu sérieuses. Bon, voilà. Mais je trouve effectivement qu'on est dans quelque chose d'assez équivalent, quoi. Hein. Vous avez une idée de l'auteur, peut-être, de ce portrait ? Ah, c'est l'époque de Prudhon, effectivement, mais c'est pas lui. Un artiste pas très connu, moi que j'adore, mais qui est pas très connu. Il s'appelle Louis-Léopold de Boilly.
Ah oui.
Hein ? Un artiste superbe, à mon avis, pas très connu, dommage. Et là, qui a fait un portrait de jeune femme, je ne sais pas si on connaît son nom, c'est la comtesse de Rolin. Bien, parfait. Alors, ce qui est amusant, c'est que Louis-Léopold de Boilly, il a fait des centaines de portraits comme ça, tous pareils. C'est un peu le Carmontel du 19e. Je vous en montre là. Hein. Voilà. Toujours pareil. Hein. Vous voulez des hommes ? Eh bien, voilà. C'est toujours pareil. Même dimension, même fond. Jamais de... Alors là, il n'y a même pas de colonne dans le fond. Hein. C'est toujours des personnages qui sont toujours tournés d'un côté ou de l'autre. Hein. Jamais tout à fait de face. C'est plutôt de quart de face ou de quart de profil. Toujours avec un fond neutre. Toujours la même dimension. C'est pas plus grand, c'est pas plus petit. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de jaloux. Il y a un côté photo d'identité. C'est systématique. Vous savez qu'il y a, un grand couturier moderne qui adorait ces portraits-là. C'était Karl Lagerfeld, qui avait une collection énorme de Boyer, qui adorait ça. Et qui en avait une cinquantaine, hein. Alors, tous pareils sur un mur comme ça. Il a tout vendu. Bien. Voilà. Voilà. Et donc voilà cet artiste, un nouveau Paul Boyer, qui est quelqu'un qui fait de la photo d'identité en portrait finalement peint. Hein. On est là finalement dans une sorte de démarche proche de Carmontel ou de Chasseur avec les deux sœurs tout à l'heure. C'est une sorte de neutralité. Alors, la neutralité n'empêche pas, encore une fois, de sourire un peu, ou au contraire, d'être très sérieux. Hein. Et alors là, vous voyez, ces trois hommes-là, ils n'ont pas tous la même tête. Hein. Mais il y a des personnalités différentes.
Oui, mais il gagnait sa vie avec ça. Oui.
Absolument.
Et les gens n'étaient pas surpris par leur portrait.
Sans doute pas. Et de toute façon, l'idée là, c'était de faire une chose très, très objective. Hein. Boyer, il ne fallait pas s'adresser à lui pour faire un portrait d'ailleurs c'était plus là, mais un portrait en vestale, hein. C'est pas du tout son truc, hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire vraiment des portraits. D'ailleurs, il y avait un tarif basique. Il disait d'ailleurs qu'il pouvait faire ses portraits en 2 heures. Hein. J'ai pas contrôlé pour ma part, hein. Mais vraiment, il y avait une idée vraiment d'un côté très normé, comme ça, hein. Une sorte de production de portrait très neutre. Hein. Ça, c'est l'idée de Boyer. Reynolds. Hals, alors, Hals ou Reynolds? Hals. Hals. Franz Hals.
Hein? La bohémienne.
La bohémienne de Franz Hals. Hein? Alors, cette bohémienne de Franz Hals, chef-d'œuvre du Louvre, hein? Tableau fameux, cette bohémienne de Hals, portrait, pas portrait? Ha ha! Ben voilà. C'est le même coup que la dentelière. C'est-à-dire qu'on est certainement devant une œuvre que Hals a fait devant une dame. Hein, qu'on appelle la bohémienne, mais l'idée n'est pas de faire d'abord un portrait, c'est-à-dire une image réaliste de quelqu'un, mais de représenter un genre de figure, c'est-à-dire une bohémienne ou une femme que l'on appelle bohémienne, parce que les bohémiennes au XVIIe, c'est à vrai des gens qui tirent la bonne aventure, qui lisent dans vos mains votre futur. Ça peut être également des femmes un peu légères, enfin, le mot bohémienne est un mot un peu large, hein. Voilà, donc on a là un type de bohémienne plus que le portrait de quelqu'un. Il a fait plein de choses comme ça. Je vous montre ici l'enfant riant de Hals. C'est la même idée. Voilà. Extraordinaire. Ah. Et ça. Auteur. Pardon. Non, c'est pas Madame Vigée-le-Bras.
Fin 18e.
Fin 18e, effectivement.
Peut-être David.
David, c'est un portrait de Jacques-Louis David, absolument. Sublime œuvre d'ailleurs. Hein. Enfin, moi je trouve ce portrait admirable, mais bon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait? Qui en est un, hein, c'est un portrait. En l'occurrence, c'est Madame Truden, la femme de Monsieur Truden. Bon, hein. Donc un portrait précis, fait pour elle, pas de problème. Mais qu'est-ce qui, dans ce portrait, à mon avis, contre, hein, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut sortir de
son regard.
Le regard, oui.
Elle est très...
Ah, les couleurs. Les couleurs. Regardez-moi ce fond, quand même. Hein. Mais, inouï, c'est inouï, un portrait comme ça. C'est-à-dire que, franchement, vous avez là une espèce de giclée rouge, n'est-ce pas? Et vous avez vu comment c'est fait. Hein. C'est pas monochrome, hein. C'est fait avec des espèces de taches. Alors, longtemps, on a dit, oui, c'est un portrait, pas fini, etc. C'est pas si sûr, parce qu'en fait, on connaît toute une série de portraits de David comme ça, où le fond est traité comme ça, non pas d'une manière étale, hein, comme le grand David officiel qu'on connaît, mais avec des petites touches comme ça, vrombissantes. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez que la couleur veut dire quelque chose. Ce tableau, il est fait à quelle période?
Oh, la Révolution, elle me fait penser à une veuve de la Révolution.
Absolument. Il est fait à la Révolution. Alors, en l'occurrence, elle n'était pas veuve, mais d'ailleurs, longtemps, d'un coup, ce portrait était celui de quelqu'un d'autre. On a pensé que c'était le portrait de Mademoiselle Vernet, la fille du peintre Joseph Vernet, qui d'ailleurs a été envoyée à l'échafaud. Et d'ailleurs, David n'avait pas été pour rien dans sa condamnation. Et longtemps, on a dit que c'était son portrait et que David est allé jusqu'à peindre avec son sang, n'est-ce pas, le fond du portrait qu'il avait réalisé. Bon, c'était aller un peu trop loin, même si David n'a pas été un tendre. Hein. Bon. Mais donc Madame Truden, elle, n'a pas eu ce sort funeste. Hein. Mais on n'est quand même pas à une époque très, très évidente. Hein. On est là en pleine révolution. C'est un moment difficile, hein. Et les Truden sont des gens qui ont eu quand même un peu des problèmes. Hein. Donc, si vous voulez, là, on voit que le décor, pensez au portrait de Christine Boyer par Gros tout à l'heure, le fond, il a une importance. Dans un portrait, il ne faut pas regarder que le visage, il faut regarder ce qui se passe autour. Parce que ce qui se passe autour a une importance. Ça peut être un attribut essentiel pour comprendre le personnage, ça peut être des couleurs qui font comprendre la période, le moment, le contexte. Cette femme, elle a aussi un regard qui est dans une sorte d'inquiétude effarée et calme. Hein. Et donc, on aurait un fond béjasse, on n'aurait peut-être pas la même vision. Hein. Donc, le contexte, il est capital. Neptune, effectivement. Neptune.
Ah oui, avec le trident, c'est Neptune.
Neptune. Ah, vous ne voyez peut-être pas très bien. C'est Neptune de chez Neptune, si j'ose dire.
C'est peut-être le portrait de quelqu'un
en Neptune. Exactement. C'est le portrait d'Andrea Doria en Neptune. Et c'est une œuvre de qui ? De Bronzino. Donc, vous pouvez vous faire représenter en Junon, comme tout à l'heure, mais messieurs, pensez vous faire représenter en Neptune. Hein, voilà. Comme tu trident, c'est toujours sympathique. Hein. Donc c'est une chose tout à fait possible. Ça peut paraître curieux, étrange, mais on voit donc que ça appartient toujours à cette famille des portraits que j'appelle rapidement des portraits déguisés. Hein. En voilà un autre d'ailleurs, du même topo si j'ose dire. Là, ce personnage est représenté en quoi ? Alors, peut-être un peu en satire, du moins un satire, il y en a un juste à gauche. Oui. Et la statue qui est là. Décidément, le décor est important. Hein. Bacchus. Et au premier plan, vous avez des léopards, ça c'est l'animal de Bacchus, qui sont en train de dévorer des raisins. Les léopards aiment beaucoup le raisin. Je vous le dis au passage. Enfin, j'ai jamais contrôlé. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est un portrait de Nicolas de l'Argilière qui présente un personnage, un portrait d'un homme représenté en Bacchus. Donc vous voyez qu'à la Renaissance, mais au 18e, ce genre de choses existe. Ouais, voilà. Là, vous vous rappelez de notre atelier il y a 2 ans, hein, où on a ciré Fragonard en long, en large et en travers. Hein. Donc, c'est une œuvre de Fragonard. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce portrait-là ?
Un portrait de fantaisie. Hein.
Voilà, c'est des portraits de fantaisie. Et en quoi ce portrait est-il fantaisie, justement ?
Il est de dos.
Il est de dos, oui, c'est vrai, c'est un peu spécial. Hein. Un portrait de dos, il faut le faire, c'est quand même gonflé. Mais Fragonard était, on l'avait vu il y a 2 ans, hein, suffisamment gonflé.
C'est un musicien.
Alors, on dirait un chanteur, parce qu'il tient une mandoline. Et vous savez ce qu'il est, ce personnage, en fait ? Il est receveur général des finances. La prochaine fois que vous voyez votre percepteur, demandez-lui de vous chanter quelque chose.
Hein, voilà. Et d'avoir des fleurs dans les cheveux.
Voilà, absolument. Hein. Et un petit chapeau, et un peu de dentelle autour du cou. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce portrait de fantaisie ? Pardon ? Oui, alors, il y a effectivement un côté mouvementé, hein, vous avez raison, hein, on n'est pas là dans un portrait statique, hein, il y a en effet du mouvement jusque dans la manière de peindre, d'ailleurs, vous avez raison, hein, il est représenté de dos, mais il se retourne, d'ailleurs, vous savez que Fragonard, il a fait d'autres portraits du même genre, hein, voilà son copain, l'abbé de Saint-Nom, par exemple, hein, ça, c'est un abbé, vous voyez là, hein, faut le savoir, ça, c'est une amie, elle, non pas la Guimard, qu'on a cru longtemps, mais la comtesse de Graves. Et vous savez également que dans ces figures de fantaisie, il y a ce fameux portrait qui n'est pas celui de Diderot. Rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 ans. Hein. Tout récemment, on a réidentifié ce portrait grâce à un dessin de Fragonard découvert il y a peu de temps. Ce n'est pas Diderot, hein. C'est l'écrivain que vous voyez ici représenté. Donc effectivement, il y a du mouvement dans tout ça. Mais dans tous ces portraits de fantaisie, qui sont fort fantaisistes, effectivement, on voit aussi autre chose. Oh, pardon.
À
une certaine longueur.
Oui. Voilà. Alors, il y a effectivement de la longueur, mais il y a surtout un décalage entre le personnage lui-même et sa représentation. Finalement, on est toujours dans le domaine de ce portrait déguisé dont on parlait tout à l'heure. Alors là, ce ne sont pas des acteurs, hein, mais dans ces portraits de fantaisie, Fragonard fait jouer à des gens qui sont plus ou moins de ses proches, hein, des rôles. Là, c'est une actrice qui joue plus ou moins un rôle d'actrice, mais on a vu notre receveur des finances qui jouait le rôle d'un musicien. Là, vous avez peut-être vu rapidement. Ouais. Alors, vous savez donc de qui il s'agit ? L'auteur de la croix. Et portrait par portrait ?
Peut-être un portrait préparatoire.
Voilà. C'est le même cas de figure que tout à l'heure. Hein. C'est effectivement un portrait préparatoire pour le massacre de Sio, hein, ou de Kyo, pour la scène des massacres de Kyo. Là, je ne sais pas si vous avez le portrait. Je n'ai pas remis le tableau là, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, mais au devant du tableau de la croix, il y a une vieille femme assise, hein, avec une tête comme ça. Eh bien, c'est elle. Hein. Donc, c'est donc le même statut bizarre. C'est-à-dire que Delacroix fait portrait a portraituré cette femme. Hein, donc, c'est un portrait, mais qui n'en est pas un, parce que c'est une tête, en fait, de femme, pour les massacres de Kyo. Hein. Donc, c'est un portrait qui n'en est pas un, tout en étant un portrait quand même. Et là...
Oh, très officiel.
Officiel. Hein. Totalement officiel. Il y a beaucoup de bazar. Ce qui veut dire quoi, ce bazar-là ? Voilà, c'est un collectionneur. Hein. Le personnage que vous avez là, c'est M. de Pourtalès, qui était un banquier très riche, très collectionneur, l'un souvent avec l'autre. Et vous voyez que là aussi, le contexte compte. Hein. C'est-à-dire, vous auriez ce portrait-là sans rien autour, vous n'auriez pas deviné que c'était un collectionneur. Hein. Là, il y a plein de choses autour de lui, on comprend que c'est un collectionneur. Ce n'est pas d'une gaieté folle. Là, le son d'anatomie de roman. Voilà. Hein. Donc là, maintenant, on est rompu à ça. On a vu suffisamment de portraits maintenant. Portraits de quel type alors là ?
De groupe.
Enfin, de groupe. Hein. Décidément, les portraits de groupe, ça existe. Hein. Et donc, c'est un portrait de groupe. Et par rapport à la typologie des portraits qu'on essaie de dégager, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce, qui est, à ce qu'est ce portrait de groupe ? Voilà, une sorte de profession, hein, une sorte de portrait assez neutre, finalement, hein, qui montre les personnages pris dans leur quotidien. Fameuse leçon d'anatomie du docteur Tull. C'est une vanité. Vanité ou portrait ?
Ah, les deux.
Ben, c'est les deux. Hein. Et quel est l'intérêt de combiner le portrait et une vanité ? Alors, ben, il n'était pas tout à fait mort, parce qu'il a quand même fait ce portrait. Ah, le personnage là.
Oui,
le peintre.
Le peintre, oui. Mais le peintre, c'est qui là-dedans ? Il est où le peintre ? C'est lui ?
Non, non.
C'est Vittel. Après tout, il y a des peintres femmes aussi. On en parlera bientôt ici d'ailleurs. À moins que ce soit lui ?
Oui, parce
c'est qui le peintre ici ?
C'est lui.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'il tient la baguette.
Exactement, il a la baguette du peintre.
Du peintre.
Hein. Ça, c'est la baguette qui sert, vous savez, à poser la main. Donc ça, c'est un peintre. Soit dit, celui-là, on était peut-être un aussi. On ne sait pas qui c'est. C'est peut-être son père, mais pas sûr. Qui était peut-être peintre aussi.
Il se ressemble,
oui. Alors, pourquoi tout ce fatras, là ? Oui, des objets dont il se sert dans ses tableaux.
Oui, mais il y a même des bulles de savon.
Il y a même des bulles de savon.
Ah oui.
Ah oui. Et why, pourquoi ?
Symbole.
Symbole. Et de quoi ? La fragilité de la vie. Voilà. Donc vous savez que, oui, c'est l'homo boula, hein, on en a déjà parlé. Hein. Donc effectivement, ce personnage qui s'est portraituré, peut-être avec des portraits de ses proches et de ses parents, ou de son père, que sais-je encore, hein, se représente avec toute une série d'objets qui sont peut-être des éléments de son atelier, mais qui sont également des objets, vous l'avez dit dès le départ, qui évoquent une vanité, c'est-à-dire l'idée, vous savez, très fréquente, notamment dans la peinture nordique, hein, de la représentation de la fin de tout à chacun. Quoi, hein, absolument. Époque
18e.
Portrait, pas portrait ? Portrait. Un portrait assez cool aussi. Hein. Je m'en souviendrai de ça. Mais c'est pas faux. Hein. Après tout, l'anglais, c'est un langage qui existe. Hein. Alors, donc portrait, mais qui... Oui, oui. Oui. Je donne le titre. C'est Madame Nonotte, par Monsieur Nonotte, qui est son mari, qui était peintre. Hein? Vous avez le portrait de Madame Nonotte, par Monsieur Nonotte. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Quel portrait ça peut nous rappeler? Un portrait qu'on a vu tout à fait au départ, d'ailleurs.
Oui.
On a vu. Oui, Rabot, pour moi, était plus strict. Non, hein. Il était de profil, il bouquinait un peu, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup d'affect, je trouve.
Oui.
Là, je vois quand même davantage.
On dirait qu'elle a une main déformée.
Oui, oh, elle a peut-être un peu d'arthrose, je ne sais pas. Peut-être un peu.
Non, c'est, moi, c'est un raccourci.
C'est aussi une licence artistique de son mari. Oui, allez-y, madame, n'hésitez pas, vous m'aviez dit que vous deviez quitter un peu tôt. À bientôt. Bonjour.
Il y a
vous
un côté
encore 5 ou 10 minutes, ça
oui, oui. Il y a un côté d'intimité.
Oui, il y a un côté d'intimité. Moi, ça me rappelle un peu, dans oui. un autre faciès, hein, mais le portrait de Madame Houdon tout à l'heure.
Oui.
Vous rappelez de Madame Houdon qui était en train de rigoler, hein, comme si son mari l'avait surpris, il lui dit un truc dans la cuisine, et elle rigole, quoi. Bon, là, c'est un peu pareil. Monsieur Nonotte arrive, sa femme est en train de lire tranquillement, elle fait un peu chaud, donc elle a un éventail, donc elle a replié, parce qu'il y a une dimension d'intimité, comme ça. C'est pas un portrait qui est neutre, comme vous voyez tout à l'heure, hein, ou comme les deux sœurs de Chassériau, encore moins, hein. Mais ce n'est pas non plus un portrait qui est super officiel. On a sur le portrait intime, une sorte de naturel familial, d'une certaine manière.
Oh, on a une raquette de tennis.
Chardin, c'est Chardin.
Chardin, ça.
Portrait, pas portrait.
Ah, là aussi.
Peut-être pas.
Ah oui, c'est fini.
Et ben voilà. C'est-à-dire que, bah oui, pas vraiment portrait. Hein. Finalement, derrière le nonote qu'on a vu tout de suite, on pourrait dire, bah voilà, portrait, ça c'est la fille de Chardin avec ses. Eh ben, pas vraiment. Hein. Certes, il a sûrement fait poser quelqu'un. Peut-être qu'un jour on découvrira que c'est le portrait de quelqu'un d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant, non, a priori, voilà. Donc vous voyez que cette notion de portrait, elle est finalement plus complexe qu'on imagine. Hein. Elle est plus subtile qu'on dirait. Finalement, ici, on a peut-être, comme la dentelière de Vermeer tout à l'heure, une œuvre que Jean-Baptiste Chardin a fait, parce qu'il a fait des portraits comme ça. Vous connaissez peut-être l'enfant au teuton de Chardin, oui. Un petit garçon qui fait des tournées, une toupie. Eh bien, c'est un portrait. Hein. Or que là, a priori, non. Alors est-ce que c'est parce qu'on a perdu. On ne sait pas tout sur les peintures non plus. Hein. Est-ce qu'on a perdu le nom du modèle? On ne sait pas. En tout cas, c'est pas forcément un portrait. La reproduction est mauvaise en plus. Mais voilà, on est devant quelque chose qui est peut-être d'abord la représentation d'une fillette avec un volant avant d'être le portrait de Mademoiselle Truc-Chouette.
Portrait de chien.
Le chien d'une personne.
Ah oui, les chiens favoris.
17e, ça.
C'est pas quelqu'un. Portrait de chien. Alors évidemment, vous avez d'emblée souligné le problème. Hein. Dans les définitions dictionnaires, on parle de quelqu'un. On parle pas de quelqu'un. Est-ce qu'un chien est un quelqu'un? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Hein, mais bon, c'est mon trip canin, si j'ose dire. Mais effectivement, voilà, on est toujours dans ces limites. On parle effectivement de portrait de chien. Vous avez une idée de l'époque de ça?
17e.
17e.
17e, Louis XIV.
Ouais. Louis XIV. Ah, 18e, Louis XV plutôt. Oudry. C'est vrai que Oudry a fait de très nombreux portraits de chiens. Hein.
Oui,
Oudry, c'est un peu le natier pour les filles de Louis XV, mais pour les chiens de Louis XV. Hein. Lui a fait les chiens de Louis XV. Natier a fait les filles. Bon. Alors là, c'est un tableau en fait plus ancien, c'est un tableau de Jacopo Bassano, un tableau du 16e siècle. Hein. C'est a priori d'ailleurs le plus ancien tableau connu en Occident, représentant un, entre guillemets, portrait d'un animal. Première fois qu'on voit ça. Vraiment, parce que ce n'est pas un détail coupé d'un tableau, hein. C'est bien un tableau fait pour ça. Hein. Le commanditaire lui a commandé les portraits de ses chiens. Hein. C'est beau, hein. Acheté par le Louvre il y a une quinzaine d'années, c'est super. Et voilà des portraits de Oudry, des portraits de des chiennes de Oudry en l'occurrence. On termine tranquillement notre regard en continuant de se faire la vue sur des portraits. Ça, c'est de qui ? Quelle époque ?
16e.
16e, absolument. Une idée d'un peintre ? Non, c'est postérieur. Postérieur à Van der Weyden. On est un peu dans ce prolongement-là, mais le siècle après. C'est Hans Holbein. Hein ? Qui est représenté ?
Un ecclésiastique.
Évêque.
De quel rang, si j'ose dire ?
Évêque.
Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qui permet de le savoir ?
La mitre.
Voilà. Donc vous voyez que même si on ne connaît pas le personnage, ce qu'il y a autour et les attributs sont essentiels. Décidément, un portrait, ça n'est pas que la tête. Ça peut être que ça, hein. Mais c'est aussi les attributs qui l'accompagnent éventuellement. Hein. On a vu que le décor était important, les attributs aussi. Hein. Voilà. Donc, là, c'est l'archevêque de Canterbury, c'est pas n'importe qui. Hein. Je vous présente pas n'importe qui.
Jéricho.
Jéricho, absolument.
La folle.
Ouais, absolument. C'est un portrait de, entre guillemets, folle par Jéricho. Donc ce genre de portrait, vous le rapprocheriez de quoi ? De que l'on a peut-être déjà vu ? Oui ?
Mais un type, plutôt.
Ouais. Est-ce que vraiment... Enfin, je sais plus, mais je pose. Est-ce que vous le rapprocheriez à la bohémienne ? Vous savez, cette femme en train de rigoler, un sein un peu offert. De plutôt de la Croix,
oui,
le massacre de Kyo ?
Oui.
Ouais.
Effectivement.
Ouais.
Mais un type social.
Type social. C'est votre dernier mot, si j'ose dire. Ben, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Je rapprocherais plutôt ça de nos photos d'identité de Boyer tout à l'heure. La différence, c'est que clairement, là, le fond, il est brun. Hein. Bon. Mettez un fond. Parce qu'il nous représente quelqu'un. Effectivement, est-ce que vous connaissez l'histoire de ce portrait-là ? Comme des autres. Car ce portrait-là est en effet un portrait de Jéricho. C'est une folle monomane du jeu. Mais Jéricho n'en est pas resté là. Il a représenté aussi une monomane de l'envie. Un fou monomane du vol d'enfant. Un monomane du vol tout court, pas d'enfant. Et un monomane du commandement militaire. Ça, on n'aurait pas dit, on aurait plus. Voilà. Il en a fait d'autres, mais qui n'existent, enfin qui n'en disent pas. À vos greniers, une fois de plus. Donc, vous voyez, si je vous dis que ça ressemble à Boyer, c'est parce que, en fait, un médecin, je crois que c'était la Sainte-Pétrière, avait commandé à Jéricho toute une série de portraits qu'il a réalisés tous du même format, tous sur un fond sombre. Il faut dire que c'est pas forcément très gai, donc. Sombre allait bien, pour représenter cliniquement de manière très neutre. Hein. Alors, c'est des figures qui sont peut-être pas très neutres par elles-mêmes, parce qu'elles sont évidemment dans un contexte, voilà, hein, elles sont malades. Donc forcément, quand on est malade, on n'est pas forcément comme les personnages de Boyer ou les sœurs de Chassériau, qui sont peut-être un peu malades aussi. Enfin, bon, alors, donc il y a un côté, si vous voulez, très normé hein, de ces portraits-là, qui représente effectivement des types de maladies. D'ailleurs, le médecin l'avait fait pour pouvoir montrer à ses élèves des types de maladies, une typologie de maladies. C'est superbe, hein ? Extraordinaire ensemble. Ah !
Oh, bah là, c'est plus ancien.
Plus ancien. Quelle époque ?
Fin du Moyen-Âge.
Fin du Moyen-Âge, 15e. Quel peintre ?
Okay.
Pas Van Eyck.
Van der Goes.
Pas Van der Goes, mais Weyden. Effectivement pas très loin.
Van der Weyden ?
Non plus. Oh. Pas Metsys. Pardon ? Un peintre dont nous possédons en Saône-et-Loire un des chefs-d'œuvre. Pas Van der Weyden, d'ailleurs, Beaune n'est pas en Saône-et-Loire et c'est pas le politique de Beaune. En Saône-et-Loire. Non.
À Autun ?
À Autun.
Chevalier romain, oui.
La Vierge au chancelier en Lain, qui est de qui ? Le maître de Moulins. Alors vous savez que depuis quelque temps. On pense que le maître de moulin s'appelait Jean Hay. On en a peut-être déjà parlé ici. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce panneau du maître de moulin ?
Alors, une sainte avec la donatrice.
Effectivement, une sainte avec une donatrice. Donc, la sainte, sainte Madeleine, présente la donatrice qui s'appelle Madeleine, c'est normal. On se fait présenter par son saint patron, ça, c'est normal. Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette dimension de portrait ici ? C'était fait pour le panneau, vous voyez là, entrer dans quel type de d'œuvre ?
Un triptyque. On dit diptyque.
Alors, c'était un triptyque ou un diptyque ? Les deux sont possibles. C'était peut-être un diptyque. Pardon ? Mais un diptyque ou un triptyque, un polyptyque en tout cas, qui avait quel but ? Ce portrait, c'est un portrait qui est de quel type par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent ?
Réaliste.
Réaliste, hein. Et pourquoi il est abordé, il soit vraiment réaliste ?
C'est la donatrice, donc...
C'est une donatrice, et donc... Il faut qu'on la reconnaisse. Il faut que nous, dans l'Église, on la reconnaisse, pour savoir que la donatrice, elle a l'argent pour demander à Jean de faire un tableau. Ça, c'est le premier point. Puis l'autre dimension qui est importante, c'est quoi aussi ? C'est un tableau qu'on met dans une cuisine ?
Ah, mais non, mais c'est un tableau de l'Église.
Et si on met dans une église, c'est pourquoi ?
Certes, mais aussi
pour le salut éternel. Il s'agit que Dieu vous reconnaisse quand même. Donc si vous faites représenter que vous êtes irreconnaissable, comment voulez-vous que Dieu vous reconnaisse ? Quand vous faites faire un portrait dans une église avec vous, vous devez vous faire représenter de manière réaliste. Pas question de faire représenter avec des mouches, je ne sais où, ou un Saint-Lair. Il faut vraiment vous faire représenter de manière réaliste. Ça, c'est très très important. Dieu reconnaîtra les siens. On a encore le temps d'en voir une petite scène.
Lyotard.
Lyotard, absolument. Magnifique artiste, Jean-Étienne Lyotard, un peintre suisse, très peu connu en France, mais les Français ne connaissent pas la peinture suisse. Voilà, qui représente qui ? Une femme turque, absolument. Elle est représentée en turc, sauf qu'elle n'est pas turque. C'est une des filles de Louis XV, la même qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était l'air, le etc. Mais c'est la même, sauf que cette fois, elle est représentée en turc. Les turqueries sont très à la mode, vous le savez, à cette période. Alors là, ce type de portrait appartient à quelle typologie des portraits qu'on a vu déjà ? Déguisé, travesti, absolument.
Oui, mais...
Et ça ?
Non, d'enfant royal, descendance royale, mais je ne sais plus le qui.
Absolument, un enfant effectivement de descendance royale, c'était une fille naturelle de Louis XIV. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce portrait ?
La bulle,
qui évoque quoi ?
La jeunesse,
la fragilité de la vie, toujours la même chose. Notez que ce tableau a été fait juste après la mort de cette jeune fille. Vous comprenez donc pourquoi ? La bulle. Pas portrait. C'est donc pas vraiment un portrait. C'est plutôt un portrait d'un type, en l'occurrence, un philosophe. C'est pas un portrait particulier, même si, comme d'habitude, Giordano a pris quelqu'un comme modèle. Mais c'est pas, à proprement parler, un portrait. On en connaît plein de peintres, notamment italiens, ont fait ça. Voilà, un philosophe par Tiepolo.
Raphaël,
la Vierge à la Seine. Portrait, pas portrait ?
Non,
c'est pas un portrait. Même si Raphaël a certainement pris quelqu'un. Vous savez que c'est ça la grande innovation de Raphaël. Il prenait des gens, notamment des paysannes dans la rue, pour servir de modèle Vierge à l'enfant. Donc, c'était le cas dans la Vierge à la Seine. C'est donc bien portrait, mais pour représenter la Vierge, donc c'est plus un portrait. D'accord ? Voilà, il a fait ça pour d'autres Vierges, comme celle-là, par exemple. Sainte femme ? Portrait, pas portrait ? Oui, mais si vous vous mouillez un peu.
Un portrait.
Ah, Je sens le vent du risque.
C'est une
héroïne de roman. Peut-être.
Ou une sainte Madeleine.
Ou une sainte. Qu'est-ce qui prime dans une œuvre telle que celle-là? Qu'est-ce qui ressort, à votre avis? C'est l'expression, le regard, l'expression. Ben, c'est d'ailleurs tellement expression que c'est ce qu'on appelle une tête d'expression. Dans les académies, autrefois, notamment en France, il y avait des cours, pas simplement des cours de nus. Vous savez qu'on on faisait figurer des modèles nus qu'on présentait sous toutes les faces, si j'ose dire. Hein. Mais on faisait également des têtes d'expression. Et là, ce que vous voyez, c'est une expression qui est... Le thème du jour, c'était la foi mêlée d'espérance. Alors, vous êtes des étudiants, n'est-ce pas, à l'école des Beaux-Arts de Paris. On vous dit, faites-moi, c'était votre copie du jour, la foi mêlée d'espérance. Vous faites ça. Alors vous pouvez faire autre chose, hein. Par exemple, vous pouvez faire une expression qui est une femme éplorée. Voilà ce que vous allez faire. Hein. Vous pouvez faire, c'est l'autre idée du concours, la surprise mêlée de joie. Voilà. Hein. Par contre, on peut aussi vous demander de faire... Alors vous allez nous pondre ça. Hein. Ou bien là, on peut également vous demander de faire la mélancolie. Vous allez faire ça. Hein. On peut vous demander aussi, pourquoi pas, de faire le dédain. Vous allez nous faire cette figure-là. Vous voyez donc comment sont ces têtes d'expression? Il y a un thème, et donc ça doit être des portraits de personnes réelles. Hein. Ce qui prime, ce n'est pas le portrait, c'est l'expression qui est derrière. Alors on va peut-être en faire un petit dernier, parce qu'on ne va peut-être pas aller jusqu'au 40e.
Il y a Florence.
Non, il est au Louvre. Il a toujours été. Hein. Il est du Louvre.
Guirlande
d'ailleurs. Portrait, pas portrait.
Oui.
Portrait.
Oui.
D'ailleurs, c'est marqué. C'est effectivement un portrait d'un vieillard avec son fixe. Alors, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est moins le quart. Je ne veux pas non plus vous faire coucher trop tard. Hein. Voilà, j'en avais prévu quelques autres, mais on a bien discuté. Hein. Enfin, je pense que vous avez surtout commencé à voir ce sur quoi je voulais qu'on travaille aujourd'hui. C'est voir que cette question du portrait était plus subtile, plus complexe qu'il y semble, hein. On essaiera la fois prochaine, en début de séance, de se remémorer un peu quelles sont les quelques grandes familles, de refaire une sorte de typologie de portrait. C'est ce qu'on essaiera de faire au début de la séance précédente. Suivante.
Merci.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci.